Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la une.
Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Camille Boulat, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain.
Bonjour Camille.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast.
Merci d'être à nouveau parmi nous pour cette nouvelle émission. Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indice créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Daboudet, président de l'enseigne 123webimo.com. Le réseau d'agences immobilières a été créé en 1999 et a misé dès le départ sur le digital, sans modèle d'agence physique. En 2021, l'enseigne compte 90 agences et souhaite afficher un réseau de 150 unités d'ici 5 ans. Bonjour Jacques.
Bonjour Camille.
Merci de nous avoir rejoints. Pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation d'123webimo.com et quels sont les points forts qui ressortent de ces documents juridiques?
Alors, on a des documents juridiques de très bonne qualité. Donc, on a une évaluation globale qui est de 74%, donc issue du diagnostic performance réseau, avec une évaluation du DIP qui est à 78%, donc c'est un excellent score. Et une évaluation du contrat qui est à 70%. Donc on a des documents qui globalement sont supérieurs à la moyenne de marché, et ce qui démontre que l'enseigne a fait un réel effort dans la conception de sa documentation juridique. On a des documents qui sont récents, c'est un vrai point fort, qui répondent aux exigences actuelles et qui sont à jour, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre chronique régulière. Et là, c'est le cas, donc on est très heureux de le voir.
Et c'est important de le souligner, Sylvain. Alors, vous précisez tout de même que le DIP mériterait d'apporter quelques informations complémentaires sur l'état financier du réseau et ses perspectives de succès. Pourquoi et que manque-t-il, selon vous?
Alors oui, en fait, on a un document qui, sur le plan des obligations légales, au sens de la loi Dubin ou de son décret d'application, est totalement aligné, en fait, hein. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Après, il y a quelques petits points d'amélioration dans le DIP, notamment, en fait, quand on lit le DIP, il ne permet pas suffisamment à un candidat de projeter son projet d'entreprise, en fait. Donc, ce n'est pas obligatoire, hein, ce n'est pas ce qu'impose la loi Dubin et le décret d'application, mais quand on pense à l'engagement en toute connaissance de cause, on se dit les points d'amélioration qu'on peut mettre en œuvre dans un DIP pour qu'ils soient encore plus impactants et plus utiles pour un candidat, c'est de lui permettre de construire son propre prévisionnel. On ne lui transmet pas un prévisionnel, évidemment, mais on lui transmet suffisamment d'éléments pour qu'il puisse projeter son propre projet d'entreprise. Et là, en fait, l'usage qu'on ne peut pas faire du DIP, c'est celui-ci, c'est permettre à un candidat de pouvoir utiliser le document en l'état pour construire son projet d'entreprise et construire son propre prévisionnel.
Jacques, est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vient de décrypter Sylvain?
Oui, avec plaisir. Déjà, merci pour cette analyse parce que je suis agréablement surpris et heureux de cette notation. Alors, par rapport à la remarque, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, dans le DIP actuel, on n'a pas toutes les données qui permettent aux candidats de pouvoir bâtir son entre guillemets plan d'action et surtout son business plan. Mais en réalité, la façon dont on procède aujourd'hui, on va lui mettre une maquette, si bien qui va lui permettre quand même de lui donner un sens à la construction de son business plan. Et on va répondre, bien entendu, à toutes les questions qu'il va pouvoir avoir, en particulier dans la constitution de l'activité commerciale et donc du développement du chiffre d'affaires en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. Donc, nous, on l'accompagne en fait en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le candidat aura accusé réception de son DIP. Il aura bien entendu accusé réception du modèle contrat de franchise et du fameux tableur lui permettant de bâtir son business plan. Et dans la foulée, à sa demande bien entendu, mais c'est quand même 9 fois sur 10 que cela se présente, on va l'accompagner pour répondre à toutes les questions sur le montant moyen du chiffre d'affaires, on pourrait voilà, sur le nombre de transactions que le candidat va pouvoir réaliser avec X conseillers, etc. Ce qui va donc mécaniquement, il n'aura plus qu'à compléter en fonction de ce que lui entend faire, j'entends bien, nombre de ventes, etc., nombre de collaborateurs recrutés, le document Excel qui est mis à sa disposition avec le DIP et qui va automatiquement alimenter son chiffre d'affaires. En ce qui concerne les charges, c'est pareil. On a déjà intégré des charges fixes dans le modèle, qui sont les charges qu'il va devoir régler, entre guillemets, à la tête de réseau, en particulier les charges de diffusion, par exemple, les services. Après, les autres charges, on ne peut pas nous les inventer puisque tout va dépendre, entre guillemets, de son choix stratégique, j'ai envie de dire, sur de la communication, sur le budget qu'il souhaite mettre en recrutement, enfin, etc., etc. Donc, des choix qui lui appartiennent. Voilà. Donc, la réalité veut dire que quand même, le futur candidat franchisé va pouvoir quand même bâtir un business plan de manière concrète. Et puis, toujours est-il qu'à un moment donné, avant même de signer le contrat de franchise, il sera en droit de nous le soumettre pour avis. Et voilà, et ça permettra d'avoir un échange constructif sur son projet d'entreprise.
Est-ce que Jacques, vous pouvez préciser les charges fixes? Parce que vu que vous êtes un modèle sans agence, voilà, quelles sont les charges fixes dans votre business model?
Alors, les charges fixes principales, hein, je dirais, dans notre modèle, sont les charges de diffusion, hein, puisqu'on est une entreprise d'agence immobilière, et par définition, à partir du moment où on a des mandats de vente, donc des biens à la vente, il va falloir faire savoir au grand public que ces biens sont disponibles. Donc, on utilise aujourd'hui tous les grands portails immobiliers existants en France, voire à l'étranger pour certains, de manière à pouvoir communiquer. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, chez nous, la charge de diffusion d'annonces immobilières sur les portails immobiliers. Donc, cette charge va représenter de l'ordre, alors, selon la région, entre 640 euros, 700 euros, en gros, hein, par mois. Enfin, le tarif exact, c'est 640 euros, d'ailleurs, aujourd'hui. Ça, c'est hors taxe. Et auquel va s'ajouter donc des charges de services en fonction des services que le candidat aura souscrit. Alors, aujourd'hui, on lui propose sur ce qu'on appelle chez nous le pack métier. C'est un pack qui coûte 295 euros hors taxe par mois, voilà, qu'il va devoir prendre parce qu'on estime que ce sont les outils digitaux qui vont lui permettre de faire son métier convenablement dans le modèle qui est le nôtre. Voilà, donc on a par exemple tout ce qui va concerner la mise en avant du bien en 360 degrés, enfin la visite 360 degrés, la signature électronique, enfin etc., les avis clients, enfin voilà, tout un panoplie de services qui vont l'aider à pouvoir mettre en avant et prendre des mandats d'ailleurs, hein, puisque c'est quand même un des arguments forts, indépendamment du modèle d'honoraires réduits, justes et équitables, qui vont faire la différence, hein, sur le terrain.
Dans le contrat, Sylvain, vous estimez que si le document est globalement complet, il se heurte à la spécificité du secteur des agences immobilières en réseau. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précis sur ce point?
Alors, on est sur des métiers qui sont, on va dire, très normés et donc relativement packagés. Et évidemment, donc, on a des savoir-faire qui sont souvent bien défini, bien processé, et donc ça se retranscrit dans le contrat, parce qu'on se retrouve souvent sur des métiers comme ça de service, où la réussite économique, elle repose aussi sur l'action, l'énergie que va mettre le franchisé dans la recherche de ses clients, dans l'action de vendre les biens immobiliers, etc. Donc en fait, on a des contrats qui sont souvent le reflet en fait d'un métier très normé et puis d'un franchisé qui doit être très piloté pour pouvoir bien réussir son activité au quotidien. Donc on se retrouve souvent en fait sur ces activités de service et notamment d'agence immobilière avec des contrats qui sont assez descendants, quoi, où la liberté du franchisé elle est relativement réduite. Donc c'est ce qu'on constate et puis le contrat là, on va dire, n'échappe pas en fait à ce qu'on lit d'habitude.
Oui, vous indiquez que la liberté du franchisé est réduite. Sur quel point précisément? Est-ce que vous avez des exemples à donner?
En fait, les clauses sont présentes, l'intégralité des clauses qui doivent être présentes le sont, mais parfois la formulation, elle est assez encadrée et assez rigide. Exemple, il y a toute une partie sur les achats centralisés et la centrale d'achat où le franchisé peut modifier cette liste, mais en fait où la co-construction ou les idées des franchisés, ce qui est souvent le cas dans la réalité opérationnelle en fait, n'est pas inscrit dans le contrat. Donc, quand on lit la clause, on se dit, en fait, le franchiseur peut modifier unilatéralement, peut proposer des améliorations, mais les franchisés en contrepartie peuvent-ils le faire? Et ça, c'est des points qui, quand on lit le contrat, je me place toujours, quand on lit des contrats, du point de vue d'un candidat extérieur qui ne connaît pas la marque. C'est ça qui est intéressant. On voit des clauses qui sont très descendantes, alors que dans la vraie vie et dans la vie du réseau, je pense que la logique veut qu'un franchisé qui a des idées d'amélioration peut les proposer, etc. Sauf que ça n'est pas écrit. Donc c'est là où on se dit la liberté, la co-construction, parfois elle manque un peu. On le voit aussi sur les clauses liées à Internet et aux réseaux sociaux. Dans la pratique, évidemment, les franchiseurs encadrent ces systèmes, mais ils ne valident pas l'intégralité des posts qui sont réalisés par les franchisés. Or, dans le contrat, c'est plutôt inscrit dans ce sens, avec une vérification systématique. Bon, quand on est dans des réseaux de plusieurs centaines de franchisés, ça devient ingérable que de tout modérer, quoi.
Jacques, est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être décrit par Sylvain ?
Oui, bien sûr. Alors, oui, je peux entendre que vous avez l'impression que les informations sont assez encadrées, descendantes. Mais ça a une explication simple. En ce qui concerne les services et la diffusion, où effectivement on ne laisse pas le choix au franchisé que de passer par notre centrale d'achat, c'est aussi parce que c'est un réel avantage pour lui. Hein.
Tout à fait.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en passant par cette centrale, il économise entre 2000 et 2500 euros par mois que s'il achetait lui-même en direct toutes ces publicités. Donc c'est vrai qu'on le contraint à passer par cette centrale parce que c'est son intérêt. Et je répète que nous, en tant que tête de réseau et franchiseur, je dis toujours, on a tous intérêt à travailler main dans la main et à faire que nos franchisés réussissent et soient rentables. Bon. Et donc, une des forces de notre réseau, c'est ça, c'est la centrale. Et c'est pour ça qu'on impose la souscription de ces services et de la diffusion, parce qu'on lui permet d'avoir des réductions extrêmement importantes qui vont varier entre 55% pour les services à jusqu'à 80% pour les 20% sur la diffusion. Donc, c'est d'ailleurs un des atouts, je dirais, de rejoindre notre modèle à nous.
Et c'est un atout, excusez-moi, je vous coupe, mais qui a été complètement souligné pour le coup par l'ensemble des franchisés que j'ai interrogés et qui ont clairement salué la plus-value de cette centrale et la nécessité que c'est vraiment la force de votre réseau.
Une des forces, oui, une des forces importantes. Alors, autre chose concernant la communication et la liberté d'action et la force de proposition du réseau. Ce qui n'est peut-être pas dit, mais c'est une pratique, et ça peut être confirmé par les franchisés qui sont dans le réseau actuellement, c'est que depuis que nous avons racheté cette entreprise, moi je pars du principe que ce sont d'abord nos entrepreneurs qui sont au business, et ce sont eux qui savent ce dont ils ont besoin pour développer leur activité. Donc on fonctionne dans un régime complètement démocratique, puisque la majorité des décisions que nous prenons, pour dire pas dire la totalité des décisions importantes et stratégiques de l'entreprise, elles sont systématiquement soumises au vote, d'accord, des franchisés, systématiquement, dans le cadre des réunions régionales ou indépendamment d'ailleurs, que nous organisons, où nous présentons les projets et où nous les faisons valider. Sous-entendu, on est dans un système complètement ouvert et complètement démocratique. Toutes les propositions sont écoutées, ne sont pas forcément validées par l'ensemble, hein, mais nous fonctionnons depuis notre arrivée sous ce modèle-là. Voilà. Je vais prendre un exemple simple. On a décidé, on a eu une demande du réseau dès que nous avons repris cette entreprise il y a 2 ans et demi, bientôt 3, pour modifier et reconstruire le logiciel de transaction, c'est-à-dire notre outil de travail. J'ai entendu cette demande dès mon arrivée. On a travaillé rapidement sur la reconstruction d'un site Internet qui existe aujourd'hui. On a retravaillé sur un cahier des charges pour reconstruire cet outil de transaction. Et on a soumis au réseau la décision de lancer ce projet. Projet qui a été validé à plus de la majorité des 2/3, voilà, qui nous a conduit à nous lancer dans cette construction de nouvel outil qui est en cours de livraison sous peu. Voilà. C'est un exemple, mais simplement pour bien répondre à la question. Deuxième point important, on parle des réseaux sociaux. Nous, évidemment qu'on laisse toute liberté de parole à nos franchisés, évidemment. Et on ne fait aucun contrôle. On a, je le dis haut et fort, par contre, la seule chose qu'on impose, c'est qu'ils essayent de respecter la charte graphique qui est la nôtre, pour qu'on ait une unité de communication. Alors, j'avoue qu'encore, on est à 80-90% de réussite sur ce plan. Mais par contre, ils ont totale liberté de communication sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Insta et autres, TikTok, pourquoi pas. Voilà. Tout ça, ce sont des points qui sont essentiels parce que nous respectons la liberté individuelle de nos entrepreneurs. Malgré tout, on souhaite que dans la communication, il y ait une certaine homogénéité, voilà, de présence. Hein. Bon, par exemple, la charte graphique, voilà. Donc, on a demandé à nos franchisés de respecter cette charte, voilà, tout simplement.
Sylvain, est-ce que d'après vous, il y a des choses qui doivent être rajoutées du coup dans le contrat pour préciser tout ce que je viens de détailler?
En fait, c'est un constat qui est assez classique, hein, dans la vie des réseaux, c'est qu'au départ, les contrats sont volontairement très encadrants, et puis après, le réseau se développant, on va dire les instances de dialogue, les commissions consultatives se mettent en place. Et elles sont souvent pas suffisamment mises en valeur dans le contrat. Quand vous dites très clairement que sur les réseaux sociaux, votre mode de fonctionnement, il est exactement celui qu'il faut mettre en œuvre dans un réseau, hein, sur le plan managérial. Mais quand on lit la clause, on se dit qu'il y a un petit écart entre ce qui est écrit au contrat et puis la réalité opérationnelle. Idem, je pense, sur la centrale d'achat, parce qu'en fait, sur la centrale d'achat, c'est... très, très clairement écrit que, enfin, le franchisé n'est pas cité expressément comme un pourvoyeur d'idées ou d'améliorations. L'idée, c'est absolument pas de dire que le franchisé peut sortir de la centrale d'achat, sinon autant qu'il ne travaille pas en réseau et qu'il soit en indépendant isolé, ça n'a aucun sens. C'est la mutualisation et l'économie d'échelle qui fait la vie en réseau. Par contre, les franchisés peuvent être pourvoyeurs de points d'amélioration, d'idées qui, si elles sont bonnes à prendre, peuvent se généraliser au réseau. Et en fait, cette mécanique-là, qui est celle que vous décriviez très justement, en fait, hein, et qui fait la force d'un réseau, bah, quand on lit le contrat, on ne la voit pas, elle n'est pas si évidente. Et comme je vous disais, en fait, je me place toujours d'un point de vue du candidat à la franchise, qui regarde à l'extérieur, qui est toujours un peu méfiant au moment de s'engager, et puis qui compare. Et qui ne voit pas ce point qui est de manière très claire dans le contrat, alors que je pense que c'est un nouveau point de force, en fait, aussi. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est intéressant à regarder. Évidemment, les contrats évoluent en fonction de la vie du réseau, etc. Et puis, le point de vue du juriste qui va rédiger le contrat, c'est de défendre, hein, les intérêts suprêmes de la marque. Mais parfois, montrer qu'on est capable de faire preuve d'encore plus d'assistance par du dialogue, par des commissions de... consultative, etc., et les expliquer, c'est valoriser l'intelligence collective, en fait. Mmh. Voilà. Donc, c'est un point de remarque. Encore une fois, l'évaluation est à 70%, donc elle est extrêmement bonne. Mais s'il y a 10% à gagner, je pense qu'ils sont là, en fait.
D'accord. Très bien.
Sylvain, vous précisez également qu'il y a des clauses qui sont parfois dures. Alors, on en a parlé de quelques-unes, mais vous citez la clause sur les obligations commerciales chiffrées ou la clause de résiliation unilatérale. Pourquoi, oui, selon vous, elles sont un peu difficiles?
On ne va pas dire qu'elles sont difficiles parce qu'en fait, elles sont liées au métier en lui-même. On est sur des métiers de service. On n'est pas sur des métiers où l'emplacement fait le chiffre d'affaires, entre guillemets. On est sur des métiers où... l'énergie du franchisé, la capacité à appliquer le concept tel que, à sortir, à aller faire de l'action commerciale, fait le chiffre. Donc évidemment, la manière pour les franchiseurs dans ces activités-là de sécuriser, on va dire, le bon développement, puis éviter que des territoires soient neutralisés par un franchisé qui ne serait pas dans le bon état d'esprit ou dans la bonne énergie, etc., c'est de mettre en place des clauses d'objectifs. Donc c'est assez classique. Mais après, la contrepartie, c'est aussi de mettre du dialogue, de la consultation, éventuellement de la formation complémentaire, si c'est nécessaire, etc. Et en fait, cette contrepartie-là, on ne la lit pas de manière évidente. Donc voilà, donc c'est plutôt une somme de choses qu'un point particulier qui me fait dire ça.
Jacques, vous souhaitez peut-être réagir à ce que Sylvain vient de détailler ?
Je peux comprendre, mais comme l'a souligné Sylvain, on est dans une activité commerciale. Lorsqu'on va, entre guillemets, octroyer un territoire, une zone de chalandise à un agent immobilier, comme je disais, on a un intérêt commun, c'est qu'il réussisse et qu'il se développe. Alors, en même temps, On a, de manière transparente, on a, enfin, je sais que notre prédécesseur a dû faire face à des problématiques où des gens avaient pris la carte, si je puis dire, et sans forcément s'impliquer. Hein, donc, comme vous l'avez justement souligné, on fige une zone qui finalement ne génère pas d'activité commerciale. Bon, ça, c'est le sujet. Pour revenir à ça, là encore, comme je dis toujours, nous, on n'a aucun intérêt en tant que tête de réseau et franchiseur à installer quelqu'un qui ne réussit pas. Donc, notre première inquiétude, c'est justement que le développement se passe du mieux possible. Et donc, pour ça, il faut l'accompagner. Donc, peut-être qu'effectivement, on ne met pas assez en avant cette espèce de dialogue. Mais croyez-moi, on est dans le concret, hein, outre la formation sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. On a mis en place, non seulement on a mis en place, mais on a aujourd'hui un centre de formation agréé Calliope, okay, qui va non seulement former le franchisé et ses collaborateurs, je dis bien et ses collaborateurs, s'il y a convenance, enfin, on incite vivement à le faire pour des raisons d'apprentissage du savoir-faire le plus rapidement possible, même s'il a la liberté de ne pas les envoyer, hein, s'il ne le souhaite pas. Mais comme la plupart le font finalement, parce que c'est tellement un soulagement pour eux, une aide, un appui, et qu'ils aient tous le même discours, etc. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que globalement, si on sent des difficultés, évidemment, dans le cadre du suivi et de l'animation commerciale, on va essayer de trouver des solutions avec la personne qui est en difficulté. Pourquoi la mise en place du savoir-faire ne fonctionne pas? Est-ce qu'il fait bien ce qui est préconisé de faire ou pas? Enfin, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle un coaching, hein, donc, qui est mis en place au cours des 3 premiers mois avec le franchisé, qui peut, je dirais, être reporté pour 3 mois de plus si on voit que c'est difficile de décoller. Hein. Donc, il y a un accompagnement, hein, de ce franchisé. Donc, on va pouvoir suivre et voir un petit peu si la mise en place du savoir-faire et l'application des méthodes réussit. Donc, il y a tout cet accompagnement-là. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on dit on veut doubler la taille du réseau, qu'on ne cherche pas à aller recruter 40, 50 franchisés par an, parce que nous, on sait quelle est notre limite. Et on sait qu'il faut du temps pour accompagner des franchisés. Et quand si on réussit à intégrer une quinzaine, voire 20 bon, franchisés par an, ça veut dire qu'il faut en intégrer 1,5, 2 par mois. Bon, il faut les suivre, il faut pouvoir leur consacrer du temps. Hein. Entre autres, vous voyez, c'est toutes les semaines, c'est 1, voire 2, 3 demi-journées consacrées au coaching de ces nouveaux. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est nécessaire. Donc, en contrepartie de cette clause d'objectif, on essaie bien entendu de mettre tous les moyens et toutes les chances de notre côté, qui vient de notre côté au pluriel, hein, dans le sens franchisé et franchiseur, parce que, là encore une fois, quelqu'un qui ne réussit pas, c'est un échec pour tout le monde, à commencer par le franchisé, mais aussi pour le franchiseur, parce que c'est évidemment une activité qui ne se développera pas sur le secteur qu'on lui a confié. Voilà. Et donc, si d'aventure, effectivement, il n'y a plus rien à faire, il faut qu'on ait aussi la possibilité, nous, de pouvoir récupérer ce territoire d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut que on arrête le partenariat avec ce franchisé qui, quelque part, sera un service à lui rendre.
Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.